L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5500 francs par jour seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Et vous recevez ce matin le député de la première circonscription.
Notre invité est en effet Nicolas Malzorf. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être tôt ce matin dans le studio alors que vous êtes rentré samedi seulement de Paris. Après avoir fait parler de vous à l'Assemblée nationale, alors on va prendre les choses dans l'ordre. 2 minutes 30 sur la Nouvelle-Calédonie dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Qu'est-ce qui vous a indigné à ce point dans les propos de Michel Barnier? Qu'est-ce qui vous a fait dire qu'il était passé à côté des priorités des Calédoniens?
Deux choses m'ont particulièrement interpellé. La première, c'est qu'il annonce la fin du texte sur le dégel, alors que, un, ce n'est pas sa compétence, et que, deux, il ne redonne pas de perspective sur un possible dégel, c'est-à-dire qu'il aurait pu dire « bon, ben voilà, ce texte-là, on le suspend et on travaille dans un accord global au dégel du corps électoral ». Il ne l'a pas fait, il n'a parlé que de l'abandon du dégel. Donc on ne sait pas si derrière, il y avait une volonté vraiment de réouvrir le corps électoral. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'a pas parlé des urgences économiques et sociales et humanitaires que traverse la Nouvelle-Calédonie. Il n'a pas donné de plan de relance. Il n'a pas parlé de la mobilisation de Bercy pour aider nos entreprises ou de pression sur les assurances pour sauver les emplois. Et donc, j'ai trouvé qu'il était passé à côté.
On vous dira qu'en 2 minutes 30, il n'y a pas le temps de tout dire non plus.
Oui, mais j'ai trouvé qu'en qu'en 2 minutes 30, il avait dit des choses qu'il ne fallait pas dire.
Alors sur la forme ensuite, puisque vous êtes intervenu le lendemain à l'Assemblée lors des questions au gouvernement, et on vous a reproché un ton très vindicatif, voire agressif, c'était volontaire ?
Oh, mais il ne faut pas se formaliser pour si peu. Vous savez, à l'Assemblée nationale, c'est mon deuxième mandat quand même. Il faut savoir se faire entendre et respecter. Voilà, parce que si... on n'ose pas le ton, des fois, eh bien, on n'est pas entendu. Vous savez, c'est 577 députés, c'est des politiciens de haut niveau. Et pour survivre dans l'aquarium, il ne faut pas être le petit poisson rouge. Hein. Parfois, il faut être le requin. Donc, voilà, j'ai haussé le ton. Je n'aime pas faire ça en plus, mais j'ai trouvé qu'il avait dépassé les bornes la veille.
Et selon vous, c'est vraiment ce qui l'a incité à rectifier le tir le lendemain, ou il y a eu d'autres interventions politiques pour expliquer que les mots qu'il avait choisis n'étaient peut-être pas les bons?
Disons que c'est moi qui ai déclenché la colère de tout le monde, c'est-à-dire à la fois de l'Élysée et des autres ministres, parce que j'ai mis en avant les choses. Donc moi, j'ai eu son cabinet très vite, je l'ai eu ensuite pour lui dire tout le bien que je pensais de sa déclaration de politique générale. Et je crois que l'Élysée l'a appelé aussi.
Alors c'est François-Noël Buffet qui vous a répondu quand vous avez posé votre question. Tout le monde a remarqué que Michel Barnier, lui, a répondu à Emmanuel Tchibaou. Vous l'interprétez comment? C'était... une manière de vous faire payer ce que vous aviez, le temps que vous aviez employé ou...
Alors, on s'est dit ça tout de suite avec mon groupe qui a quitté la séance. Hein. Je rappelle que Gérald Darmanin s'est levé et a fait quitter tout le groupe de la majorité présidentielle. Donc, c'est 100 députés qui ont quitté l'hémicycle au moment où M. Barnier a répondu au député Tchibaou. Mais après, j'ai eu l'explication par Bruno Retailleau et par Michel Barnier lui-même, comme quoi ils avaient été eux aussi déçus par la réponse de François-Noël Buffet. Et que donc, lors de la deuxième question du député calédonien, Michel Barnier a préféré prendre la parole pour préciser les choses. Donc, ça partait d'un bon sentiment. Donc voilà, le sujet est clos.
Et les choses se sont apaisées? Vous avez eu Michel Barnier au téléphone
Ouais, les choses s'apaisent, oui, mais je retiens quand même de cette histoire qu'il va falloir qu'on soit très vigilant. Voilà, c'est ça, moi, que je retiens, c'est-à-dire qu'on va avoir un gouvernement qui est un nouveau gouvernement sur le dossier calédonien, qui n'a pas peut-être pris la mesure de la crise qu'on traversait, qui pense peut-être que c'est en donnant des gages aux indépendantistes que tout va se régler en Nouvelle-Calédonie. Donc il va falloir... comme je le disais, être présent, interpeller quand il va falloir interpeller, faire de la pédagogie quand il va falloir expliquer, pour que vraiment on puisse être défendu du mieux que possible.
Alors dans un premier temps, vous aviez envisagé de signer une motion de censure contre le Premier ministre. Après ses déclarations au Sénat, vous avez indiqué que cette correction d'orientation n'entraînera plus un vote de censure de votre part. Mais il y a bien eu le dépôt d'une motion de censure depuis. Et, surprise peut-être, Emmanuel Tchibaou ne l'a pas signée alors que l'ensemble de la gauche a signé cette motion. Comment est-ce que vous interprétez l'attitude du député de la seconde circonscription?
Ça démontre quand même quelque chose. Hein. Quand le député Tchibaou ne signe pas la censure alors que son groupe le fait à l'encontre de Michel Barnier, ça veut dire quand même qu'on a raison d'être vigilant quant à l'attitude du gouvernement et celle du Premier ministre.
Alors justement, quelles sont vos relations aujourd'hui avec votre collègue de la seconde circonscription? Dans un premier temps, on vous a vu faire des démarches en commun, aussi bien ici qu'en métropole. C'est toujours possible aujourd'hui ou il y a... un peu quelque chose de cassé?
Non, moi, je lui en veux beaucoup au député de Chibaou d'avoir été, un, à l'AG de la CCAT, et deux, d'avoir participé à ce pseudo-congrès du FLNKS où ils ont mis Christian Théin à la tête du front, alors qu'il n'y avait pas le Palika et l'UPM. Je trouve qu'il a changé de fusil d'épaule entre une campagne électorale où il se disait député patriotique, où il mettait le drapeau français dans les meetings, et un discours maintenant qui s'est radicalisé à l'Assemblée nationale et dans les actes envers les mouvements indépendantistes. Donc on continue à échanger, bien sûr, on se croise à l'Assemblée nationale, on discute, le dialogue n'est pas rompu, on ne se fait pas la tête. Mais néanmoins, il n'y a plus de démarche en commun parce que moi, je ne peux pas accepter, et ça explique aussi mon absence dans la délégation du Congrès, je ne peux pas accepter qu'on mette...
La délégation interinstitutionnelle et transpartisane, comme ils l'appellent.
Oui, mais elle n'est pas interinstitutionnelle, puisqu'elle ne concerne qu'une institution. Elle est intra-institutionnelle, mais... c'est pour ça que je ne participe pas à ça, parce que je me dis, mais on est en train d'aider l'Union calédonienne à Paris, on leur ouvre des portes des ministères, alors que c'est eux qui ont créé la CCAT, qui a tout détruit en Nouvelle-Calédonie, et ils viennent demander de l'argent à la France pour réparer leurs dégâts, tout en demandant l'indépendance aussi. Il y a un moment donné, nous, il faut qu'on soit cohérents dans notre attitude politique, donc moi, je ne peux pas participer à ça, d'autant qu'on met de côté, du coup, et les médias, notamment le service public en Nouvelle-Calédonie, et le monde politique général, on met de côté les indépendantistes qui disent du bien de la démocratie et de la France, et qui condamnent la CCAT, comme Louis Mapou sur votre antenne, comme Jean-Pierre Jaïwe sur votre antenne, comme Paul Néotine par communiqué. Donc je trouve en fait que les non-indépendantistes, en essayant de trop pousser l'UC en avant, font le jeu de la CCAT, et c'est comme si rien ne s'était passé, qu'ils n'étaient responsables de rien. Mais on ne peut pas construire, et vraiment mon raisonnement il est celui-là, on ne peut pas construire une Nouvelle-Calédonie durablement en paix si on traite ceux qui détruisent et qui cassent comme on traite ceux qui condamnent, ceux qui cassent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une question de modèle de société. Donc moi, je ne soutiendrai jamais l'Union calédonienne et je ne m'afficherai pas avec eux.
– Ils sont discrédités pour participer aux discussions sur l'avenir, selon vous ?–
Non, parce que de toute façon, ils représentent une partie de la population avec qui il va falloir négocier. Voilà. On est plus dans une attitude de négociation aujourd'hui que de dialogue, vraiment essayer de trouver une solution où on est tous contents. Voilà. Je pense que c'est une affaire de négociation. Bien sûr, nous, on n'a jamais fait la chaise vide pour l'avenir du pays. Mais, pardon, je ne considère pas aujourd'hui l'Union calédonienne et tous les partis radicaux indépendantistes qui sont allés au congrès du FLNKS à Koumac comme je considère les partis politiques indépendantistes modérés.
Alors, dans sa déclaration de politique générale sur la Nouvelle-Calédonie, même si c'était très bref, le Premier ministre a aussi annoncé l'envoi d'une mission de concertation et de dialogue conduite par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est quand même du très haut niveau. Les Calédoniens ne mesurent peut-être pas l'importance, le niveau des personnalités qui vont s'occuper de la Nouvelle-Calédonie, ça vous paraît bien ?
Vous savez, c'est le président du Sénat, c'est le deuxième personnage de l'État quand même, donc c'est quelque chose. Yael Braun-Pivet, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, c'est vraiment c'est le haut du panier de la République qui vient. Et puis tant mieux, parce que comme ça, ils vont aussi s'apercevoir de la crise économique, sociale, mais même sociétale qu'on traverse aujourd'hui. Parce que je trouve parfois que les plus pertinents sur la Nouvelle-Calédonie, c'est ceux qui sont venus et qui ont participé aux négociations parce qu'ils connaissent la difficulté et puis l'entêtement des indépendantistes les plus radicaux. Donc c'est bien qu'il y ait cette mission qui vienne parce qu'ils vont se rendre compte un peu de la situation.
Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? C'est renouer les fils du dialogue, comme on dit ? C'est avancer déjà sur l'avenir institutionnel ou essentiellement se concentrer sur la reconstruction ? Qu'est-ce qui est le plus utile aujourd'hui ?
Ben, vous savez, j'avais l'habitude de dire, et je continue de le dire du coup, que peu importe le personnage de l'État qui vient, parce que même Emmanuel Macron, il est venu, et il avait demandé à ce que les barrages soient retirés à Christian Théin, etc. Ça ne s'est pas produit. Donc finalement, ce n'est pas l'État qui peut débloquer la situation, c'est les indépendantistes eux-mêmes. C'est-à-dire, que veulent les indépendantistes ? Quelle tendance chez les indépendantistes, les modérés ou les radicaux, va l'emporter sur le reste. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura une tendance qui va vouloir trouver un accord, et à ce moment-là, ça peut aller très vite, ou est-ce qu'on aura une tendance, comme on a connu ces dernières années, qui ne veut pas négocier, qui ne veut pas discuter, et à ce moment-là, c'est bloqué. Vous savez, lorsqu'on a auditionné la mission du dialogue qui était venue, là, des trois juristes, composés de Rémi Basti, etc., on les a auditionnés à l'Assemblée nationale, et Rémi Basti a dit quelque chose de très juste. Il a dit, L'accord de Nouméa s'est négocié en 3 mois et Alain Krisnart est venu 2 fois pour négocier l'accord de Nouméa. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on négocie et Gérald Darmanin est venu 8 fois, les ministres délégués 5 ou 6 fois et les missions 3 ou 4 fois. Donc en fait, ça peut aller très vite s'il y a de la bonne volonté en face. Mais jusqu'ici, on n'a pas trouvé cette bonne volonté.
Alors Michel Barnier a également annoncé le report des provinciales à fin 2025, annoncé que ce sera vraisemblablement vers le 30 novembre, c'est vraiment la toute fin de l'année. Vous y êtes favorable, il a eu raison de prendre cette décision.
Oui, moi je faisais partie des gens qui avaient demandé le report des élections provinciales, parce que clairement je trouve que l'ambiance n'est pas à faire une énième campagne électorale en Nouvelle-Calédonie, il y a des urgences à traiter, il y a des urgences comme je disais pour nos entreprises, pour nos salariés, et je ne voyais pas partir encore en campagne électorale avec derrière forcément un débat qui va se radicaliser encore plus, avec derrière le temps de mise en place des institutions, des nouveaux élus, c'est-à-dire qu'on perd encore 6 mois, et on n'a pas 6 mois devant nous.
– Mais d'ici ces élections, il aura fallu élargir, modifier le corps électoral, ça reste indispensable ?–
Ah ben vous connaissez ma position sur le sujet.
– Mais on va y arriver ?–
Moi je suis déterminé à ce qu'il y ait une ouverture du corps électoral pour les prochaines élections provinciales. Jamais je n'accepterai qu'en Nouvelle-Calédonie, les prochaines élections provinciales se tiennent sans un dégel du corps électoral.
Mais de toute façon, c'est impossible. C'est bien l'impression qu'on a. C'est qu'on a 10 000 fois que ces élections
ne peuvent pas impossible, se dérouler. C'est impossible. On ne peut pas continuer. De toute façon, ce corps électoral, sinon, il est voué à disparaître parce que ça élimine les gens au fur et à mesure, ce dégel du corps électoral, ce gel du corps électoral. Donc, il faut l'éliminer, évidemment.
Un mot sur l'ordre public sur le territoire. La situation à Saint-Louis n'est toujours pas réglée. Vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end. Ça vous inquiète? On va s'en sortir? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce que les gens du sud de Mont-d'Or et de Yaté puissent circuler normalement?
Eh bien, on continue à faire ce que le haut-commissaire a fait jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on est sans concession envers les délinquants de la tribu de Saint-Louis. Pardon, mais la preuve en est, on ne peut pas faire confiance aux autorités coutumières aujourd'hui. On a pris 5 ou 6 communiqués de toutes les autorités coutumières du coin, et du FLNKS et de l'UC pour dire à quel point la situation à Saint-Louis était intolérable, que cette présence de gendarmes c'était intolérable, etc., et qu'il fallait privilégier la négociation. Ok, très bien, on libère la route. Quelques heures plus tard, un carjacking avec un monsieur qui se fait tabasser par 4 délinquants. Non mais pardon. Après, il ne faut pas se victimiser quand on fait des actions comme ça. Parce que je connais la stratégie des indépendantistes les plus radicaux et des délinquants. C'est-à-dire, on embête les honnêtes gens, du coup, on fait intervenir la gendarmerie et hop, on se victimise parce que la gendarmerie intervient. Ben non, il ne faut pas céder à ce chantage-là, il faut continuer à être ferme.
Les forces de l'ordre doivent rester nombreuses, enfin, au nombre où elles sont aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie.
Oui, j'ai eu d'ailleurs un rendez-vous avec Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, qui m'a reçu rapidement, et je l'en remercie. Tiens, d'ailleurs, on est filmé par un passant. Et il m'a reçu, et je lui ai demandé, j'ai dit, Monsieur Retailleau, j'ai une demande à vous faire. Maintenez les effectifs de force de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas parce que le 24 septembre est passé et qu'il s'est bien passé que ça va continuer. Donc on peut avoir des moments de tension encore en Nouvelle-Calédonie, c'est pas fini. Donc s'il vous plaît, maintenez le nombre de forces de l'ordre. Il s'est engagé à le faire, donc on verra.
Prochain rendez-vous, il y a maintenant la préparation de la loi de finances. Vous êtes membre de la commission des finances, donc vous allez y participer, j'imagine. Oui. Vous serez vigilant à ce que les besoins de la Nouvelle-Calédonie soient pris en compte.
Oui, d'ailleurs, je voudrais en dire un mot, j'ai pas eu le temps hier soir. Les annonces concrètes qui ont été faites ces dernières semaines, elles ont été faites à Sonia Baquet, c'est moi-même qui avons rencontré les ministres et de l'économie et du budget. Donc il y a les 10 milliards qui avaient été annoncés déjà de Front Pacifique par Bruno Le Maire qui vont être versés à la Nouvelle-Calédonie, ça nous a été confirmé par Antoine Armand, le nouveau ministre de l'économie, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et une autre grande nouvelle, c'est que le ministre du budget, lui, nous a confirmé à Sonia Baquet et moi qu'il y aurait 59 milliards de garanties d'investissement de l'État. C'est-à-dire pour que les collectivités puissent refinancer de l'investissement et donc aider les entreprises à redémarrer. Donc voilà, on a eu du concret quand même ces 3 dernières semaines en termes d'annonces économiques, donc on est très satisfait de ça.
Et vous continuerez à suivre ça dans la commission des finances?
Oui.
Nicolas Mézenc, député de la première circonscription, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.